en gagnant mon pain, 7e partie. Peu de temps avant cette fête, mes paupières s'étaient gonflées de telle sorte que mes yeux étaient complètement fermés. Mes patrons craignirent que je ne perdisse la vue. J'étais moi-même effrayée. On m'emmena chez le docteur Rodzevitch, une connaissance de la maison. Il me fit une incision à l'intérieur des paupières et je dus rester couchée pendant quelques jours, les yeux bandés, en proie à un ennui noir et accablant. Le jour de la Trinité, on m'enleva le bandeau et je me levai comme si je sortais d'une tombe où l'on m'aurait enterré vif. Rien ne peut être plus horrible que de perdre la vue. C'est une détresse inexprimable, une séparation du monde presque complète. Descendant le lendemain au hangar pour y chercher du bois, j'y trouvai par terre, à côté de la chatière, une bourse vide, que j'avais vue 10 fois entre les mains du soldat Sidorov. Je la lui rapportai sur le champ. « Et l'argent, où est-il » demanda-t-il en fouillant du doigt la bourse. « 1 rouble et 30 kopecks, donne-les-moi » Un essuie-main roulé en turban sur la tête, tout jaune et amaigri des libations de la veille, il clignotait d'un air furibond et refusait de croire que j'avais trouvé la bourse vide. Yermokin survint, qui l'encouragea en me désignant de la tête. « C'est lui qui a volé l'argent. Mène-le chez ses patrons. Le soldat ne vole pas le soldat. » Ces mots me donnèrent à penser que le larron, c'était lui, et qu'il avait, pour se débarrasser, jeté la bourse dans notre bûcher. Je lui criai, en le regardant bien en face, « Tu mens! C'est toi, le filou !» Je fus définitivement convaincu que mes soupçons étaient fondés, car son visage grimaça aussitôt de colère et d'effroi. Il se secoua et se mit à crier d'une voix aiguë, « Prouve-le !» Comment l'aurais-je pu? Avec des invectives, Yermokin me tira hors du bûcher. Sidorov nous suivait aussi en maugréant. Aux fenêtres parurent divers locataires, entre autres la mère de la reine Margot, qui fumait paisiblement. Je compris que j'étais perdu aux yeux de madame, et je devins fou furieux. Je me le rappelle. Les soldats me tenaient par les bras, et mes patrons, debout en face de nous, écoutaient les plaintes en appuyant les accusateurs. La vieille disait avec assurance « Bien sûr que c'est lui. Hier au soir, il faisait l'aimable avec la blanchisseuse au portail. Il avait donc de l'argent, parce que sans argent, on n'obtient rien d'elle. » « Parfaitement !» criait Yermokin. Le plancher croulait sous mes pieds. Une colère folle m'envahit. Je me mis à injurier la vieille, mais je fus battu cruellement. Ce qui me chagrinait plus que les coups, c'était l'idée de ce que la reine Margot pouvait maintenant penser de moi. Comment me justifier à ses yeux? Je fus atrocement malheureux en ces heures-là. Si je ne me pendis pas, c'est sans doute que je n'en eus ni le temps ni la possibilité. Par bonheur, les soldats colportèrent immédiatement l'histoire dans toute la cour, dans toute la rue. Le soir, comme j'étais couché au grenier, j'entendis en bas la voix de la blanchisseuse Nathalie. « Non, pourquoi me tairai-je ? Va, mon garçon, marche, marche, te dis-je, et j'irai voir ton chef, et il te fera marcher, lui. » Mais d'un autre pas. Je pressentis immédiatement que ce vacarme me concernait. La blanchisseuse se tenait à notre perron. Sa voix devenait toujours plus retentissante et solennelle. « Combien m'as-tu montré d'argent hier? Hein? D'où te venait-il? Dis-le donc !» Haletant de joie, j'entendis Sidorov qui se lamentait. « Aïe, 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 Yermokin !» Et le gamin a été accusé et battu à cause de toi. Vaut rien. J'avais envie de descendre à la hâte dans la cour, de danser de joie, d'embrasser la blanchisseuse avec reconnaissance. Mais au même moment, la patronne cria, probablement par la fenêtre, « Le gamin a été battu parce qu'il a été insolent. Mais qu'il fût un voleur, personne ne l'a pensé. Sauf toi, coquine !» Coquine vous-même, madame! Quelle vache vous êtes! Permettez-moi de vous le dire! » J'écoutais cette conversation comme une musique. Mon cœur était douloureusement brûlé par les ardentes larmes de la mortification et de la reconnaissance. J'étais haletant sous les efforts que je faisais pour les retenir. Puis, le patron monta lentement l'escalier du grenier. Il vint s'asseoir sur une botte de paille à côté de moi et me dit, en lissant mes cheveux, « Alors, Peshkov, mon ami, tu n'as pas de chance. » Sans répondre, je me détournais. « C'est égal. Tu injuries le monde d'une manière épouvantable. » continua-t-il. Je lui déclarai à voix basse, « Quand je pourrai me lever, je partirai de chez vous. » Il resta assis, sans parler, fumant une cigarette. Puis il dit à mi-voix, « C'est ton affaire. Tu n'es plus un petit enfant. Cherche toi-même où tu seras le mieux. » Et il s'en alla. Comme toujours, il m'inspira de la compassion. 3 jours après, je quittai mes patrons. J'avais une envie irrésistible d'aller dire adieu à la reine Margot, mais je n'en eus pas le courage. J'attendais qu'elle me fît appeler. En prenant congé de la petite fille, je lui recommandai « Dis à ta maman que je la remercie beaucoup de ses bontés, que je la remercie beaucoup. Tu n'oublieras pas. » « Non, non, » promit-elle, avec un tendre et gracieux sourire. « Adieu, à demain, n'est-ce pas ?» Je la revis, 20 ans plus tard, mariée à un officier de gendarmerie. Chapitre 15. De nouveau, je suis plongeur, et sur un bateau qui s'appelle Perm. Il est rapide et vaste, blanc comme un cygne. Maintenant, je suis le laveur, ou le garçon de cuisine. Je reçois 7 roubles par mois, et ma tâche consiste à aider les cuisiniers. Le restaurateur, un homme tout rond et bouffi d'orgueil, est chauve comme une bille. Les mains croisées derrière le dos, il arpente lourdement le pont pendant des journées entières, pareil à un taureau qui cherche un coin ombragé pour les après-midi torrides. Le buffet est tenu par sa femme, une dame portant la 50aine, belle mais fripée, et si poudrée qu'une poussière blanche et collante tombe de ses joues sur sa robe de couleur vive. La cuisine est sous le commandement d'Ivan Ivanovitch, surnommé l'ourson, un homme petit, replé, au nez de vautour et aux yeux moqueurs. Il est très coquet, porte des cols amidonnés, se rase tous les jours. Il a les joues bleues, des moustaches noires dont la pointe se dresse en l'air. Dès qu'il a un instant, il tourmente ses moustaches avec ses doigts rouges et cuits, et ne cesse de les regarder dans un petit miroir rond. L'homme le plus intéressant du bateau, c'est le chauffeur, Jacob Choumoff, un gaillard mal équarri, large de poitrine. Son visage au nez camu est plat comme une pelle. Ses petits yeux d'ours se dissimulent sous d'épais sourcils. Les joues sont couvertes de minuscules boucles de poils qui rappellent la mousse des marais. Sur la tête, les cheveux forment une toison épaisse où il a peine à glisser ses doigts tordus. Il était très adroit au jeu de cartes, où il gagnait toujours. Sa voracité étonnait. Pareil à un chien affamé, il rôdait sans cesse autour de la cuisine, quémandant des morceaux de viande et des os. Le soir, il prenait le thé avec l'ourson et racontait ses extraordinaires aventures. Dans son jeune âge, il avait été le 2e berger de la municipalité de Riazan. Un moine qui passait l'avait entraîné dans un couvent où il resta 4 ans comme novice. « Et je serais devenu moine, une noire étoile de Dieu !» déclamait-il, phraseur et loquace. « Si une femme de Pansane était venue en pèlerinage à notre ermitage, elle était amusante, elle me séduisit, elle me disait « Comme tu es beau, comme tu es fort !» Moi, je suis une honnête femme, je suis seule et veuve. Tu devrais venir chez moi comme portier. J'ai une petite maison. Je fais le commerce des plumes et des duvets d'oiseaux. » Alors elle m'a pris comme portier, moi. Je l'ai pris pour femme, et j'ai vécu bien au chaud pendant 3 ans. « Tu mens joliment bien !» interrompait l'ourson. « Si on te payait tes mensonges, tu serais bientôt riche. » Jacob mâche. Sur son visage se meuvent les bouclettes de poils. Ses oreilles velues s'agitent. Il écoute le cuisinier et reprend du même ton précipité et scandé. « Elle était plus vieille que moi. J'ai fini par me lasser d'elle. Et je me suis liée avec sa nièce. La tante l'a su et m'a chassée. » « C'est bien fait pour toi. Tu ne méritais pas mieux, » répondit vivement l'ourson. Le chauffeur continue, un morceau de sucre caché sous la joue. « J'ai rôdé de droite et de gauche pendant quelque temps, et j'ai fait la connaissance d'un vieux colporteur de Vladimir. Nous avons parcouru de compagnie la terre entière. Nous avons été aux Balkans, chez les Turcs, chez les Roumains, chez les Grecs, chez toutes sortes d'Autrichiens. Nous avons vu tous les peuples. Chez les uns nous achetions, chez les autres nous vendions. » « Et où avez-vous volé ? » demanda gravement le cuisinier. « Jamais ! Le vieux ne voulait pas. Il me disait, « À l'étranger, il faut être honnête. Là, la loi ne vous ménage pas. Pour un rien, on vous tranche la tête. » J'ai essayé de voler, c'est vrai. Seulement, ça n'a pas réussi. J'ai voulu une fois emmener le cheval d'un marchand qui était dans une cour. Je n'ai pas su m'y prendre, et on m'a attrapé. Et naturellement, on m'a roué de coups et conduit à la police. Le volé, lui, était un véritable voleur de chevaux, voleur très expérimenté. Moi, je n'étais qu'un pauvre et maladroit filou. J'avais travaillé chez ce marchand à l'installation d'un poêle dans une salle de bain. Mon homme tomba malade, il rêva de moi, et de telle façon qu'il s'effraya. Il fit dire à la police « Relâchez cet individu ! Il m'est apparu dans un songe, et m'a prévenu que si je ne lui pardonnais pas, je ne guérirais pas. C'est un sorcier !» Il me prenait pour un sorcier. Le marchand, gros personnage, fut écouté, et l'on me relâcha. « On n'aurait pas dû le faire, » remarqua le cuisinier. « Mais plutôt, on aurait dû te plonger 3 jours durant au fond de l'eau pour te faire dégorger ta bêtise. » Jacob releva aussitôt le mot. « Tu as raison, la bêtise, c'est mon fort. J'en ai pour tout un village. » Le cuisinier glisse le doigt entre son cou et son col trop étroit, le tire avec colère, tourne la tête et se lamente. « Ah, quel ennui ! Dire qu'il y a sur la terre des oiseaux comme toi qui baffrent, boivent et rôdent, et sait-on pourquoi ? Dis-le donc, pourquoi es-tu au monde ?» Tout en mâchant, le chauffeur répond « Je n'en sais rien. Je vis, un point, c'est tout. Les uns sont couchés, les autres marchent. Les fonctionnaires sont éternellement assis, mais les uns comme les autres ont le droit de manger. » Le cuisinier s'exaspère. « C'est-à-dire que tu es un cochon. Et quel cochon !»« Pourquoi m'injuries-tu » s'informe Jacob surpris. « Les hommes sont tous rejetons du même arbre. Tes mauvaises paroles ne me rendront pas meilleur. » Cet homme m'avait attiré à lui très vite et fortement. Je le considérais avec un étonnement continuel. Je l'écoutais, bouche bée. Il avait, me semblait-il, une connaissance de la vie qui lui était particulière. Il tutoyait tout le monde, regardait tous les gens bien en face, d'un air indépendant, et semblait mettre chacun au même rang que lui-même, le capitaine, le restaurateur, les riches passagers des premières, les matelots, le personnel du buffet et les passagers du pont. Parfois, appelé par le capitaine ou le mécanicien, il se tenait debout devant eux, ses longs bras de singe croisés derrière le dos. On lui reprochait d'être paresseux ou d'avoir dépouillé au jeu un voyageur. Mais il était visible que cette accusation ne le touchait pas, et que la menace de le renvoyer au prochain débarcadère le laissait indifférent. Je n'ai jamais vu cet homme mortifié ou pensif. Je ne me rappelle pas qu'il ait eu des moments de silence. Les paroles coulaient de sa bouche velue en un ruisseau intarissable, sans arrêt, et même, semblait-il, sans qu'il le voulût. Lorsqu'on l'injuriait, ou lorsqu'il écoutait un récit intéressant, ses lèvres se mouvaient comme s'il se répétait ce qu'il entendait, ou continuait tout bas ses propres discours. Tous les jours, son quart terminé, il sortait de la cale de la chaufferie, les pieds nus, couverts de sueur, tachés de naphte, la chemise trempée, la poitrine découverte, et aussitôt résonnait sur le pont sa voix, égale et voilée. Les mots tombaient comme des gouttes de pluie. « Bonjour, la mère. Où vas-tu ? » ?»« À Tchistopol. Je connais ce pays. J'y ai vécu. J'ai travaillé chez un tatar, riche et vieux, appelé Houssan Goubaïdouline. Le bonhomme encore solide, au museau cramoisi, avait trois femmes. La plus jeune de ces drôlesses, une petite tatare, était bien amusante. J'ai bien pêché avec elle. Il avait été partout. Il avait pêché avec toutes les femmes rencontrées sur sa route. Il parlait de tout sans méchanceté, tranquillement, comme si jamais dans sa vie il n'avait subi d'humiliation ou d'outrage. L'instant d'après, sa voix résonnait à la poupe. Hey, « Hé, les braves gens, qui vient faire une petite partie de cartes, une manille ou un autre jeu? Le jeu, c'est une affaire amusante. On peut gagner de l'argent tout en restant assis. C'est une affaire commerciale. » On le considérait en général comme paresseux. Mais il me semblait qu'il accomplissait son pénible labeur devant le foyer, dans une chaleur infernale, étouffante et puante, avec la même conscience que les autres. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu se plaindre de la fatigue, comme le faisaient les autres chauffeurs. Une fois, on vola à une vieille femme une bourse pleine d'argent. C'était par une soirée sereine et paisible. Tout le monde était tranquille et content. Le capitaine donna 5 roubles à la vieille. Les passagers en recueillirent autant entre eux. Quand on remit l'argent à la vieille, celle-ci se signa et fit la révérence à tout le monde en disant « Bonnes gens, vous me donnez 3 roubles et 10 copecks de plus que je n'avais !» Quelqu'un s'exclama gaiement « Prends tout, la vieille, à quoi bon jaser ? 3 roubles, c'est toujours bon à prendre !» Une autre voix assura « L'argent, ce n'est pas comme les gens, il n'y en a jamais de trop !» Jacob s'approcha alors de la vieille et lui proposa sérieusement de lui donner les roubles de supplément pour les risquer au jeu. Le public se mit à rire, pensant que le chauffeur plaisantait. Mais il insista auprès de la vieille, qui se troublait. « Donne-les-moi donc, à quoi te servent-ils ? Demain tu seras au tombeau. » On fut révolté. On le chassa en l'injuriant. Il me dit avec étonnement et en hochant la tête, « Les drôles de gens, pourquoi se mêlent-ils de ce qui ne les regarde pas ? Elle l'a dit elle-même que c'était de l'argent de trop. Et moi, 3 roubles m'auraient fait plaisir. » L'argent semblait le charmer par son aspect extérieur. Tout en parlant, il aimait à polir sur son pantalon les pièces d'argent ou de billon, et quand elles étincelaient, il les admirait en remuant les sourcils. Mais il n'était pas âpre au gain. Un jour, il me proposa de jouer avec lui à Stukolka, jeu que je ne connaissais pas. « Tu ne sais pas jouer ? » s'étonna-t-il. « Toi qui sais pourtant lire et écrire ? Alors il faut que tu apprennes. Viens, nous allons jouer au Narchka, du sucre pour enjeu. » Il me gagna 1/2 livre de sucre coupé. Il enfouissait à mesure les morceaux sous sa joue velue. Enfin, trouvant que je savais suffisamment jouer, il me proposa. « Maintenant, nous allons jouer pour de bon, pour de l'argent. En as-tu ? » « Oui, j'ai 5 roubles. » Moi, j'ai 2 roubles et quelque chose. » Bien entendu, je fus vite à sec. Désireux de me refaire, je jouai mon habit, qui valait 5 roubles. Je perdis. Je perdis également mes bottes neuves. Alors Jacob me dit d'un ton mécontent, presque irrité, « Non, tu ne sais pas jouer. Tu es trop ardent. Tu engages tout de suite ton habit, tes bottes. Je n'en ai pas besoin. Tiens, reprends-les. Et reprends ton argent. 4 roubles. J'en garde un pour la leçon. Sommes-nous d'accord ?» Je lui fus très reconnaissant. « Je m'en fiche, » dit-il en réponse à mes remerciements. « Le jeu, c'est le jeu, un amusement. Par conséquent, mais toi, c'est comme si tu allais à la bataille. Et même au combat, il ne faut pas se laisser emporter. Il faut frapper avec réflexion. À quoi bon s'échauffer ? Tu es jeune, apprends à te conduire. Si tu échoues 1 fois, 5 fois, 7 fois, lâche le jeu, 20 ans. Quand tu seras calmé, recommence. C'est là toute la science du joueur. » Au coucher du soleil, un passager de deuxième qui était ivre, un gros marchand de Perm, tomba à l'eau. La machine ralentit vivement, le bateau s'arrêta, lâchant sous l'hélice un nuage d'écume que les rayons empourprés du crépuscule ensanglantèrent. Dans ce sang bouillonnant, déjà loin de la poupe, un gros corps noir se débattait. Des cris sauvages qui me bouleversaient résonnaient sur le fleuve. Les passagers braillaient aussi, se poussaient, se penchaient au bastingage, s'entassaient à l'arrière. Le camarade du noyé, un homme roux, chauve, ivre pareillement, donnait des coups de poing pour arriver au bord et mugissait « Arrière, je vais l'attraper !» 2 matelots déjà s'étaient jetés à l'eau et nageaient vers l'homme. À l'arrière, on descendait la chaloupe, et parmi les cris de commandement, le glapissement des femmes. La voix sourde de Jacob s'écoulait en un filet uniforme et tranquille. « Il se noiera, il n'y a rien à faire. Il se noiera parce qu'il porte un habit. Quand on a une longue veste, on est sûr de se noyer. Les femmes, par exemple. » Pourquoi se noie-t-elle plus vite que les hommes ? À cause des jupes. La femme, quand elle tombe à l'eau, va tout de suite au fond, comme un poids de 100 kilos. Regardez, il a coulé, je l'ai bien dit. En effet, le marchand avait disparu. On le chercha en vain pendant 2 heures, sans y parvenir. Son camarade, dégrisé, était assis à l'arrière et murmurait d'une voix plaintive « Eh bien !» « Nous voilà jolis. Que vais-je faire, hein? Que vais-je dire à sa famille? Il a de la famille. » Les mains croisées derrière le dos, Jacob essaya de le consoler. « Ne t'en fais pas, marchand, car personne ne sait où il doit mourir. Des gens mangent des champignons et vlan, ils s'empoisonnent. Des milliers d'autres en mangent aussi, ils s'en trouvent bien. Et je ne parle que de champignons. » Massif et robuste, planté comme une meule devant le marchand, il pérore intarissablement. D'abord, le passager l'écouta en pleurant, essuyant ses larmes avec ses larges paumes, mais il se mit bientôt à hurler. « Pourquoi, diable, viens-tu encore me tourmenter? Brave Jean, emmenez-le, sinon je ferai un malheur. » Et Jacob dit, en s'en allant paisiblement, « Ils sont drôles, les gens. On leur veut du bien et ils vous menacent. » Nous sommes assis à l'arrière. La nuit est tiède et la lune flotte à notre rencontre. La rive basse et toute en prairie s'étend au loin. On entrevoit sur la côte montagneuse des clartés jaunes et clignotantes, sortes d'étoiles prisonnières de la terre. Autour de nous, tout se meut et palpite d'une vie silencieuse, mais réelle. Jacob me conte toutes sortes de choses. Ses histoires sont sans retenue, mais jamais répugnantes. On n'y relève ni fanfaronnade, ni cruauté, mais de la simplicité et de la mélancolie. La lune, au ciel, brille aussi d'une nudité candide. Elle m'émeut pareillement et m'attriste, je ne sais pourquoi. Je ne me rappelle que les plus beaux épisodes de ma vie. La reine Margot, ses vers inoubliables par leur justesse. Seule la chanson a besoin de beauté. La beauté n'a pas besoin de chanson. Je me secoue de cette rêverie comme d'un léger sommeil et questionne de nouveau le chauffeur sur sa vie, sur ce qu'il a vu. « Que tu es drôle !» répond-il. « Que veux-tu que je te raconte ? J'ai tout vu. Demande-moi. As-tu vu un couvent ? Oui. Et des cabarets ? Aussi. J'ai vu la vie des nobles et celle des paysans. J'ai vécu dans l'abondance, j'ai connu la misère. » Lentement, comme s'il franchissait une profonde rivière sur un pont dangereux et vacillant, il évoque ses souvenirs. « Ainsi, une fois, j'étais au violon pour vol de cheval. J'allais sans doute être envoyé en Sibérie, et le commissaire était furieux. Les poils tiraient tous mal dans sa maison neuve. Je lui dis « Je peux arranger ça, votre noblesse ?» Il me crie « Tais-toi !» Et il ajoute « Le premier fabricant de la ville n'y a rien pu faire. » Je lui dis « Parfois, le berger est plus habile que le général. » J'avais de l'aplomb. Alors, tout m'était indifférent, puisque c'était la Sibérie qui m'attendait. Il me répond « Eh bien, vas-y. Et si ça tire encore plus mal, je te mettrai les os en morceaux. » En 2 jours, j'avais arrangé les affaires. Il était stupéfait, le commissaire. « Oh, imbécile, idiot !» me dit-il. « Tu es un parfait poêlier et tu voles des chevaux. Comment expliquer cela ?» Je lui répondis. « Si j'ai volé, c'est tout bonnement par bêtise, votre noblesse. »« Tu as raison, » dit-il. « C'est par bêtise. Tu me fais pitié. Oui, tu me fais pitié. » répéta-t-il. « Hein, qu'en penses-tu ? Un commissaire de police doit être inexorable par fonction. » Et pourtant, il ne le fut pas avec moi. « Et qu'est-il survenu ? Rien, il m'a plaint. Que te faudrait-il encore ? Pourquoi te plaindre ? Tu es à l'épreuve de tout, comme une pierre. » Jacob rit sans malice. « Que tu es drôle, une pierre ! Il faut estimer même des pierres. Que ferions-nous sans elles ? Avec les pierres, on fait les trottoirs et les chaussées, les maisons, les églises. Il faut respecter toutes les choses créées. Rien n'est sans raison. Vois le sable. On le croirait stérile. Pourtant, les roseaux y poussent. Et combien d'arbres ! » Lorsque le chauffeur parle ainsi, je sens nettement qu'il me dépasse en savoir et en raison. « Que penses-tu du cuisinier ? » lui dis-je. « De l'ourson ? » demande Jacob avec indifférence. « Que veux-tu que j'en pense ? Il n'y a rien à en penser. » C'est exact. Ivan Ivanovitch est si froidement correct, si neutre, que la pensée n'a aucune prise sur lui. Je ne lui trouve qu'une qualité, c'est d'aimer le chauffeur. Il l'injurie constamment, mais il l'invite régulièrement à prendre le thé. Il lui fit un jour cette sortie. « Si le servage existait encore, et si j'avais été ton maître, je t'aurais fait fouetter 7 fois par semaine, fainéant. » Jacob remarque gravement « 7 fois, c'est beaucoup !» Tout en rudoyant le chauffeur, l'ourson le régale sans cesse de toutes sortes de bonnes choses. Il lui tend un morceau et brutalement commande « Mange !» Jacob mâche sans se presser et dit « J'en amasse des forces, grâce à toi, Ivan Ivanovitch. Et à quoi te sert-elle, la force, paresseux ? À quoi ? Mais à vivre longtemps. À quoi te sert la vie, démon ? Les démons aiment aussi la vie. Et trouves-tu que ce n'est pas amusant de vivre ? C'est très amusant, Ivan Ivanovitch. » Quel idiot ! Hein ? Idiot ! Quel drôle de mot ! S'étonne Jacob. L'ourson m'adresse la parole. Notre sang se dessèche au feu des fourneaux, et lui, il rumine tranquillement comme un veau.
À chacun sa destinée, répond le chauffeur en digérant son repas.
Je sais qu'il fait plus chaud et qu'il est plus pénible de travailler devant le foyer de la machine que devant mes fourneaux. À plusieurs reprises, j'ai essayé la nuit, dit Jacob. Il me paraît surprenant qu'il ne veuille pas faire remarquer au cuisinier combien sa besogne est dure. Assurément, cet homme sait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde l'injuriait, le capitaine, le mécanicien, le pilote, tous ceux qui en avaient la fantaisie. Cependant, on se gardait bien de le renvoyer. Ses camarades le traitaient mieux que les autres gens, tout en le plaisantant sur ses bavardages, sur son adresse aux cartes. Je leur demandais « C'est un brave homme, Jacob ?»«
Jacob ? Mais oui, il n'a pas de malice, on le tourne comme on veut. On lui mettrait des charbons rouges dans sa blouse qu'il ne se fâcherait pas. »
Malgré son labeur pénible aux chaudières et son appétit de cheval, le chauffeur dormait très peu. Son quart achevé, tout sale et couvert de sueur, il restait toute la nuit à l'arrière, sans aller se changer, conversant ou jouant aux cartes avec les passagers. Au-delà de la poupe, la rivière, couverte d'écume, coule avec rapidité. On entend le bouillonnement du flot. Le rivage noir l'accompagne lentement. Sur le pont, les passagers ronflent. Entre les bancs, entre les corps ensommeillés, se meut avec lenteur, en se rapprochant de nous, une haute et mince silhouette. Une femme, vêtue de noir, à cheveux gris, sans chapeau. Le chauffeur me pousse du coude et me chuchote « Regarde, elle a du chagrin !» Et il me semble que le chagrin d'autrui le divertit. Il parlait beaucoup. Je l'écoutais avec avidité. Je me rappelle bien ses histoires, mais aucune n'était gaie. Il parlait plus tranquillement que les livres. Un auteur exprime sa colère, sa joie, sa tristesse ou son ironie. Lui, le chauffeur, il ne riait pas, ne critiquait pas. Rien ne semblait l'émouvoir. Il parlait comme un témoin indifférent devant un juge, comme un homme que n'intéresseraient ni les accusés, ni les accusateurs, ni la justice. Cette impassibilité me déplaisait, et j'en éprouvais quelque rancune envers Jacob. Pendant que la vie brûlait autour de nous comme le feu du foyer sous les chaudières, je regardais sa grosse patte d'ours, armée d'un marteau, frapper légèrement le robinet de la soupape, pour la réglementation du chauffage. Et je lui demandais « On t'a aussi humilié, offensé ?»«
Qui est-ce qui voudrait m'offenser ? Je suis fort, et si je me défends ?»«
Je ne parle pas de batterie, mais de ton âme. On ne t'a jamais mortifié ?»«
On ne peut pas mortifier l'âme. Elle est inaccessible aux événements extérieurs. L'âme humaine, rien ne peut l'atteindre. »
Les passagers du pont, les matelots et tout le monde parlaient de l'âme aussi lourdement qu'on parlerait de la terre, du travail, des récoltes ou des femmes. Le mot revient sans cesse dans les propos de la foule. Il est d'usage comme un sou de cuivre. Je suis choquée de l'entendre prononcé par des gens aux langues acerbes, et mon cœur se serre quand des paysans le souillent par leurs affreux jurons. Je me rappelle avec quelle prudence grand-mère parlait de l'âme, du mystérieux réceptacle de l'amour, de la beauté, de la joie. Je croyais qu'après la mort des gens honnêtes, les anges blancs emportaient leur âme au ciel bleu, au bon Dieu de ma grand-mère, qui les accueillait avec affection. « Eh bien, ma chère âme, âme pure, tu as bien souffert ? Tu es lasse et douloureuse ? » Et il donnait aux âmes des ailes de séraphin, 6 ailes blanches. Jacob Schumoff, comme grand-mère, parle de l'âme avec précaution, en peu de mots et à contre-cœur. Quand il jure, il n'emploie jamais ce terme. Lorsqu'on en discutait devant lui, il gardait le silence et baissait son cou, rouge, pareil à celui d'un bœuf. Lorsque je lui demandais une définition de l'âme, il répondait « Un esprit ? Le souffle de Dieu ?» Désirant plus de précision, je continuai mon interrogatoire. Alors, le chauffeur penchait la tête et disait « Les popes eux-mêmes savent peu de choses sur cette mystérieuse entité. Elle dépasse notre intelligence. » Sans cesse, il m'oblige à penser à lui, à essayer de le comprendre. Mais tous mes efforts sont vains. La femme du restaurateur me traite avec une amabilité suspecte. Le matin, je dois lui apporter de l'eau pour sa toilette, quoique ce soit plutôt la besogne de Loucha, une jeune fille propre-être et gaie, femme de chambre des secondes. Quand je suis dans l'étroite cabine, près de la femme du restaurateur, nue jusqu'à la ceinture, quand je vois ce corps fripé et jaune comme de la pâte aigre, je me rappelle le corps lisse et brun de la reine Margot, et un dégoût me gagne. Cette femme ne cesse de bavarder, tantôt plaintive et bourrue, tantôt irritée et sarcastique. Le sens de ses propos n'arrive pas jusqu'à moi, quoique je le devine de loin. Il est lamentable, quémandeur et éhonté. Mais je n'en suis pas révolté. Je vis si loin de cette femme et de tout ce qui se passe sur le bateau. Je vis derrière une grosse pierre moussue qui me dissimule tout ce monde, voguant nuit et jour vers on ne sait où. Elle est tout à fait amoureuse de toi, notre Gavrilovna. J'entends comme en rêve ces paroles moqueuses de Loucha, et elle ajoute « Ouvre la bouche, attrape ton bonheur !» Elle n'est pas la seule à me persifler. Tout le personnel connaît les faiblesses de la patronne, et le cuisinier me dit en grimaçant « Elle a mangé de tout, la bonne femme, et maintenant il lui faut des primeurs. Ouvre l'œil, Peshkov, prends garde !» Jacob, lui aussi, me conseille paternellement. « Bien sûr, si tu avais 2 ans de plus, eh bien, je ne t'aurais pas conseillé de faire le dégoûté. Mais maintenant, à ton âge, il vaut peut-être mieux ne pas céder. Après tout, agis comme tu l'entendras. « Laisse donc ces saletés, dis-je. » « Bien sûr. » Mais aussitôt, tout en essayant avec ses doigts crochus de démêler ses cheveux en broussaille, il sème de nouveau ses petites paroles arrondies. « Mais il faut aussi la comprendre, elle. Elle chemine vers l'hiver, vers la vieillesse. Les chiens aiment être caressés, d'autant plus les gens. La femme vit de caresses, comme le champignon d'humidité. Tout le monde se marie, et toi, Jacob, pourquoi ne te maries-tu pas ? À quoi bon ? Des femmes, Dieu merci, je peux en avoir à satiété. Tu pries Dieu ? Tu m'amuses, bien sûr, je prie Dieu. Comment ? De toute manière. Quelle prière, dis-tu ? Je ne sais pas de prière. Je dis tout simplement « Seigneur Jésus, aie pitié de moi pendant que je suis en vie. Donne-moi la paix quand je serai mort. Protège-moi de la maladie. » Et j'ajoute encore 2 ou 3 autres choses. Lesquelles ? Des demandes de toutes sortes. Quoi que ce soit qu'on lui dise, il l'entend. Il me traitait avec amitié, avec la curiosité qu'on a pour un petit chat déluré qui sait faire de jolis tours. Parfois, la nuit, je m'asseyais à côté de lui. Il sentait le naft, la fumée et l'oignon. Il aimait à manger des oignons crus qu'il dévorait comme des pommes. Tout à coup, il disait « Allons, Alexis, récite-moi des vers. » Je savais par cœur beaucoup de vers. En outre, j'avais un gros cahier où je copiais mes poèmes favoris. Je lui lisais rousselant. Il écoutait, immobile, aveugle et muet, retenant son souffle rauque. Puis il chuchotait « Quelle charmante histoire !»
Il l'a inventé lui-même, ce Pouchkine. Il existe un noble du nom de Moukine Pouchkine. Je l'ai vu.
Mais ce n'est pas le même. Celui dont je te parle a été tué il y a longtemps.
Tué? Pourquoi?
Je lui expose le drame avec les mêmes phrases brèves que la reine Margot a jadis employées. Jacob écoute, puis il dit tranquillement « Il en périt du monde à cause des femmes. » Souvent, je lui raconte des histoires lues autrefois. Elles se sont toutes embrouillées et enchevêtrées dans ma mémoire en une longue narration de vies splendides et agitées, flambant de passions ardentes, pleines d'exploits insensés, de noblesse, d'éclat, de succès fantastiques, de duels et de morts, d'actions infâmes et de paroles héroïques. Pour moi, Rocambole a pris les traits chevaleresques de La Mole, d'Annibal, de Coconas. Louis XI, ceux du père Grandet. Le cornette, Otelet Taïef, se confond avec Henri IV. Cette histoire dont j'avais transformé les personnages selon mon inspiration, où j'avais interverti les événements, constituait pour moi un monde où j'étais libre, comme le dieu de grand-mère qui jouait avec les hommes à son gré. Sans m'empêcher de voir la réalité telle qu'elle était, sans atténuer mon désir de comprendre les êtres vivants, ce chaos livresque, pareil à un nuage transparent mais impénétrable, me protégeait contre une foule de malpropretés contagieuses, contre tous les venins de l'existence. Les livres me rendirent invulnérable pour bien des choses. Sachant comment on peut aimer et souffrir, il ne m'était pas possible de fréquenter les maisons publiques. La débauche vulgaire et mesquine m'inspirait du dégoût et de la pitié pour ceux qu'elle satisfaisait. Rocambole m'apprit à être stoïque, à ne pas céder à la force des circonstances. Les héros de Dumas me donnèrent l'inspiration de me consacrer à une grande et noble cause. Mon héros favori était le joyeux roi Henri IV, et je pensais que Béranger avait vaguement pensé à lui dans sa célèbre chanson « Le roi d'Yvetot », excellent bonhomme qui ne dédaignait pas les faciles plaisirs. Il n'avait de goût onéreux qu'une soif un peu vive. Mais en rendant son peuple heureux, il faut bien qu'un roi vive. Les romans dépeignaient Henri IV comme un brave homme, chérissant son peuple, la France comme le plus beau pays du monde, la terre des loyaux chevaliers, des gens aussi nobles sous le manteau royal que sous le saillon du paysan. Ange Pitou était un preux, tout autant que D'Artagnan. Quand Henri IV fut tué, j'ai pleuré, et maudit Ravaillac. Ce roi était le héros habituel de mes récits, et je crois que Jacob se mit aussi à aimer la France.
« Ce prince, quel brave homme !» disait-il parfois.
Son enthousiasme n'était pas bruyant, il ne m'interrompait pas par des questions. Il écoutait en silence, les yeux baissés, le visage immobile. Mais si, pour une raison quelconque, je m'arrêtais, il demandait immédiatement « C'est fini ?»«
Pas encore. »«
Alors ne t'arrête pas !»
Il murmurait avec un soupir « C'est français. Ils vivent tous au frais. »«
Comment ça ?»
« Je m'explique. Toi et moi, nous nous démenons dans une fournaise. Nous travaillons dur. Et eux, ils sont au frais. Ils ne font rien et ne songent qu'à boire et à se promener. » Quelle vie amusante!
Mais il travaille aussi!
Tes histoires ne le font pas supposer,
remarquait judicieusement le chauffeur. Et soudain, je m'aperçus que l'immense majorité des ouvrages que j'avais lus ne disaient presque jamais de quoi vivaient ces nobles personnages, ni s'ils travaillaient.
Maintenant, je vais dormir un moment,
disait Jacob. Il s'allongeait à l'endroit même où il se trouvait assis, et bientôt son souffle égal annonçait qu'il était endormi. À l'automne, lorsque les rives de l'Acama devinrent rousses, que les arbres se dorèrent et que les rayons obliques du soleil pâlirent, Jacob quitta le bateau. Chapitre 16. À l'arrière-automne, lorsque le bateau cessa ses courses, j'entrai comme apprenti dans un atelier d'images saintes. Le surlendemain déjà, la patronne, une petite vieille, douce et toujours un peu grise, me déclara « Les jours sont courts maintenant, et les soirées longues. Aussi, tu iras au magasin, tu y serviras de garçon de bureau, et le soir, tu apprendras. » Et elle me livra à la domination du commis. Un jeune homme aux jambes agiles, au joli visage doucereux. Le matin, dans la froide pénombre de l'aurore, nous traversions ensemble la ville presque tout entière, par la rue Klinka, encore endormie, jusqu'au marché d'en bas. Là, au second étage d'une des galeries de vente, se trouvait le magasin. C'était un ancien entrepôt, transformé, sombre, muni d'une porte de fer et d'une petite vitrine ouvrant sur la terrasse couverte de tôle. Il était tout encombré d'icônes de toute grandeur, d'armoires de livres imprimés en anciens slavons d'église et reliés de cuir jaune. À côté de notre boutique, il s'en trouvait une autre, où le patron, homme à la barbe noire, faisait le même commerce que nous. Il était parent d'un savant, vieux croyant très âgé, célèbre sur les rives de la Volga, faisant partie du territoire des Kerjen. Le marchand avait un fils, un gamin de mon âge, alerte et sec, aux yeux furtifs de souris, au visage terreux comme celui d'un vieillard. Quand j'ai ouvert le magasin, je dois courir chercher de l'eau bouillante pour le thé dans une brasserie. Après le déjeuner, je balaie, j'essuie la poussière. Ensuite, je fais les 100 pas sur la terrasse, en veillant attentivement à ce que les acheteurs n'entrent pas à côté. « Le client, c'est un imbécile !» assure le commis. « Il achète n'importe où, pourvu que ça lui semble bon marché. Il ne connaît rien à la marchandise. » Mon compagnon heurte les unes contre les autres les icônes de bois. Il m'instruit, très fier de son savoir. « Un travail d'atelier, une marchandise inférieure, 12 cm sur 15, ça nous coûte tant et tant. 24 cm sur 30, ça nous coûte tant. Connais-tu les saints et leurs vertus? Il faut te les rappeler. Boniface, c'est contre l'ivrognerie. Sainte Barbe martyre, contre les maux de dents et la mort subite. Vassili le bienheureux guérit les fièvres. Et les vierges, les connais-tu? Regarde. Notre-Dame des douleurs, de la Trinité, là-bas. Notre-Dame de la Consolation, celle des 7 glaives, celle de Kazan, de Pokrov. Je me rappelais très vite le prix des icônes d'après leurs dimensions et leur travail. J'appris les différences entre les nombreuses images de la Vierge. Il me fut beaucoup plus difficile de me remémorer les vertus des saints. Parfois, appuyé à la porte de la boutique, j'étais absorbé par mes pensées. Tout à coup, le commis se mettait à me poser des questions. « Les couches difficiles, qui les soulage ?» Si je me trompais, il me demandait d'un ton méprisant « Et ta tête, à quoi te sert-elle ?» Il m'était encore plus difficile d'attirer les clients. Les icônes enluminées d'une manière grotesque ne me plaisaient pas, et il m'était désagréable de les vendre. D'après les récits de grand-mère, je me représentais la Vierge jeune, belle et bonne. Telle, elle était également sur les gravures des revues, alors que les icônes la montraient vieille, sévère, avec un long nez tordu et des mains de bois. Les jours de marché, le mercredi et le vendredi, le commerce marchait bien. Des paysans et des vieilles femmes apparaissaient sur la terrasse, parfois des familles entières, des gens taciturnes et méfiants qui habitaient les forêts des bords de la Volga et fidèles aux anciens rites. Parfois, je voyais un homme pesant, vêtu de peau de mouton et de gros draps foulés à la maison, s'aventurait avec précaution sur la terrasse, comme s'il eût craint qu'elle ne s'effondrât. J'étais gêné et honteux vis-à-vis de lui. Avec de grands efforts, je lui barrais le passage. Je tournais autour de ses lourdes bottes et je bourdonnais comme un moucheron. « Que désirez-vous, monsieur ? Des psautiers faciles à lire et bien établis ? Les livres d'Ephren Cyrine ? Les livres d'heures ? Les cyriliennes ? Les lois ? Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît. Nous avons toutes les icônes que vous pouvez désirer, à tous les prix, dans toutes les dimensions, le plus beau travail. Nous peignons sur commande tous les saints et toutes les vierges. Vous voulez peut-être commander une icône personnelle, une icône de famille ? C'est ici le meilleur atelier de la Russie, le plus grand commerce de la ville. » Impénétrable et impassible, le client garde longtemps le silence. Il me regarde comme un chien, et tout d'un coup, il m'écarte du geste, entre chez le voisin, et notre commis grommelle en se frottant ses grandes oreilles. « Tu l'as laissé échapper ! Quel piètre commerçant tu fais !» Dans la boutique voisine résonne une voix douce et mélodieuse, des phrases ensorcelantes sans guirlande. « Nous ne vendons pas des peaux de mouton, brave homme, ni des bottes, mais la parole de Dieu, qui vaut mieux corps et argent, qui n'a pas de prix. »« Diable !» chuchote le commis, envieux et charmé. « Il sait lui barbouiller les yeux au paysan. Fais comme lui, apprends !» J'apprenais consciencieusement à peindre, mais je ne faisais aucun progrès dans l'art d'attirer le client, ni dans celui du commerce. Ces paysans renfrognés, avares de paroles, ces vieilles, pareilles à des souris, toujours méfiantes et apeurées, tous me faisaient pitié. J'avais envie de dire tout bas au client le prix réel des icônes, sans prendre aucun bénéfice. Tous, ils me semblaient pauvres, misérables, et je trouvais bizarre que ces gens pussent payer 3,50 roubles pour un livre de psaumes, livre qu'ils affectionnaient tout particulièrement. Ils m'étonnaient par leur connaissance des livres et de la valeur réelle de la peinture des icônes. Ils me plaisaient. Je sentais en chacun d'eux quelque chose de mystérieux, comme en Jacob. Parfois, une silhouette massive, vêtue d'une pelisse jetée par-dessus un veston fourré, pénétrait dans la boutique. Le personnage enlevait sa casquette de fourrure, se signait avec deux doigts en se tournant vers l'angle où scintillait la lampe éternelle. Puis il s'efforçait de ne pas poser le regard sur les icônes non consacrées, et jetant un coup d'œil autour de lui, disait « Donne-moi donc un livre de psaumes !» Rejetant les manches de sa pelisse, il examine longuement la page de garde et ses lèvres terreuses et gercées murmurent « En as-tu de plus anciens ?»« Les anciens, ils coûtent 1000 roubles, vous le saviez peut-être ?»«
Nous le savons !»
Il se mouille le doigt, feuillette les pages, y laisse une empreinte noire. Le commis le regarde de côté d'un air furieux et dit « L'écriture sainte a toujours la même antiquité. Le Seigneur Dieu n'a rien changé à ses paroles. »
« Nous le savons, nous le savons. Si le Seigneur n'a rien changé, l'icône ne s'en est pas privé. »
Le client ferme le livre et s'en va. Parfois, ces gens discutaient avec le commis et je m'apercevais fort bien qu'ils connaissaient mieux que lui les écritures.
« Ces païens de marécage !» grommelait-il.
Le paysan avait beau ne pas être satisfait du livre, il le considérait avec respect et n'y touchait qu'avec précaution, comme si le volume eût pu prendre des ailes et s'envoler de ses mains. J'appréciais cette réserve, parce que pour moi aussi, le livre était un miracle. Il renfermait l'âme de celui qui l'avait écrit, et cette âme, quand j'ouvrais le Saint-Livre, conversait mystérieusement avec moi. Très souvent, les vieux et les vieilles apportaient pour les vendre des livres en caractères anciens et antérieurs à Nicone, ou de belles copies de ces livres faites par les sœurs cloîtrées de Lirguise et du Kerjens, ou encore des icônes de style ancien, des croix et des reliquaires de cuivre avec ornements de fonte étrangère, des carafes d'argent données par les princes de Moscou à leurs protégés. Tout ceci, on nous le proposait avec des airs mystérieux, avec circonspection, en cachette. Notre commis et notre voisin étaient également à l'affût des vendeurs de ce genre et essayaient de se les enlever mutuellement. Ils achetaient ces antiquités pour quelques roubles et ils les revendaient à la foire, aux riches vieux croyants, des centaines de roubles. Le commis me prévenait. « Surveille-les, ces démons, ces sorciers, guette-les de tous tes yeux. Ils apportent le bonheur avec eux. » Quand survenait un vendeur de ce genre, le commis m'envoyait chercher un vieil érudit, Piotr Vassilitch, expert en livres, en icônes d'ancien style et en toute espèce de vieillerie. Il était très grand, il avait la barbe longue, comme Vassili le Bienheureux. Des yeux intelligents éclairaient son visage sympathique. Appuyé sur un long bâton, il boitait un peu en marchant, car il était amputé du métatarse à un pied. Été comme hiver, il portait un long vêtement, léger et mince, une casquette de velours de forme étrange ressemblant à une casserole. Vif, le torse droit, il courbait les épaules et tendait le cou en pénétrant dans la boutique. Il soupirait, se signait fréquemment avec deux doigts et murmurait sans cesse des prières et des psaumes. Cette faiblesse, cet air vénérable, inspirait du coup confiance au vendeur. « Qu'y a-t-il qui ne va pas ?» demandait le vieillard. « Cet homme apporte une icône à vendre. Il prétend qu'elle est de Stroganov. »« Hein ? De Stroganov ?»« Ah, j'entends mal. Le Seigneur a protégé mes oreilles de l'abomination des paroles niconiennes. » Il regarde attentivement l'icône et prononce son jugement. Au premier coup d'œil, l'image a l'air d'être de style Stroganov, ou même d'Oustiouchki, ou de Souzdal. Mais quand on l'examine de près, on voit que c'est une imitation. Quand il disait « imitation », cela signifiait que l'icône était rare et précieuse. Toute une série d'expressions convenues indiquait combien l'on pouvait donner de l'icône ou du livre. Je savais que les mots « désespoir » et « désolation » signifiaient 10 roubles. Nikon le tigre, 25. J'étais indigné en voyant comment l'on trompait le vendeur. Hélas, c'est le commerce. Mais le jeu habile de l'expert m'amusait. Les vieux maîtres, comme Pimen Douchakov, quoique ce fût un hérétique, peignaient toute l'icône eux-mêmes, le fond et les visages, et la vernissaient ensuite. Mais de nos jours, les vils petits êtres humains n'en sont plus capables. Autrefois, la peinture des icônes était une œuvre sacrée. Aujourd'hui, c'est un art seulement. Oui, bonnes gens, seulement un art. Enfin, il posait avec précaution l'icône sur un rayon, et remettant sa casquette, il concluait « un péché ». Ce qui voulait dire « achète ». Noyé dans le flot des paroles qui lui plaisaient, stupéfait par la science du vieillard, l'acheteur demandait avec déférence « Et alors, l'icône, qu'en pensez-vous ? » « L'icône, elle est de la main d'une icône. » « Ce n'est pas possible. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères la vénéraient déjà. »« Nikon a vécu avant ton arrière-grand-père. » Le vieillard promenait l'icône sous le nez du vendeur et lui enseignait d'une voix devenue sévère. « Remarque son aspect frivole. Est-ce une image sacrée, hein ? C'est un tableau de mécréant, une amusette de Nikon. Il n'y a pas d'âme dans cette chose. » Je dis, mon ami, toute la vérité. Que suis-je? Un vieillard, traqué pour ses croyances. Je comparaîtrai devant Dieu demain, peut-être. Me supposes-tu assez fou pour charger mon âme de mensonges? » Il sortait de la boutique, tremblotant de faiblesse, offensé de ce que l'on douta de sa probité. Le commis payait l'icône quelques roubles, le vendeur s'en allait en saluant très bas Piotr Vassilitch. On m'envoyait à la brasserie chercher de l'eau bouillante pour le thé. Quand je revenais, je trouvais mon expert tout ragaillardi et joyeux. Il examinait avec amour le nouvel achat et il en détaillait les beautés au commis. « Regarde, elle est grave et peinte avec délicatesse, dans la crainte de Dieu. Elle n'a rien d'humain. » « Qui en est l'auteur ?» demande le commis, rayonnant et sautillant. « Tu n'as pas encore besoin de le savoir. » « Et combien en donneront les amateurs ?»« Je n'en sais rien. Donne, je veux la montrer à quelqu'un. »« Oh, Piotr Vassilitch !» Et si je la vends, il y aura 50 roubles pour toi. Le surplus fera ma petite part. Oh, ne proteste pas, ce serait inutile. Ils prennent le thé. Ils discutent leur prix d'une manière éhontée et se regardent avec des yeux de fripon. Le commis est entièrement au pouvoir de l'expert, je le vois. Quand ce dernier est parti, le commis me dira « Sois sur tes gardes, ne va pas raconter cet achat à la patronne. » Une fois l'affaire conclue, le commis demande « Qu'y a-t-il de neuf en ville, Piotr Vassilitch ?» Lissant sa barbe avec sa main jaune, entr'ouvrant ses lèvres onctueuses, le vieillard raconte la vie des riches marchands, leurs affaires, leurs maladies, leurs débauches, leurs noces, leurs adultères. Pareil à une bonne cuisinière faisant des crêpes, il sert ses racontars bien à point, chaud et léger, et il les arrose de son rire persifleur. Le visage rond du commis se fronce d'envie et de ravissement. Ses yeux se voilent d'une vapeur rêveuse, il soupire et dit d'un ton désolé « Ils vivent bien, ces gens, et moi, je végète. » « Chacun a sa destinée, » résonne la basse de l'expert. « Les anges forgent une destinée avec un marteau d'argent. » Le diable en taille une autre à coups de hache. Ce vieillard robuste et nerveux connaît tout. Il sait tous les secrets des marchands, des fonctionnaires, des prêtres et des bourgeois. Rien n'échappe à son œil d'oiseau de proie. Il y a en lui du loup et du renard. Je voudrais le mettre en colère, mais je ne peux y réussir. Il me regarde comme de loin, à travers un brouillard. Il est inaccessible à la colère, où il sait la refouler au fond de lui-même. En revanche, il lui arrive souvent de me provoquer. Il s'approche tout près de moi et me pose des questions captieuses ou saugrenues. Écoute-moi bien et réfléchis à ce que tu vas répondre. 1000 personnes toutes nues sont devant toi, 500 hommes, 500 femmes. Parmi elles se trouvent Adam et Ève. À quel signe les reconnaîtras-tu ? J'avoue mon embarras. Petit nigaud, ils ont été créés adultes. Par conséquent, ils n'ont pas, ils ne peuvent avoir de nombril. Le vieillard sait une quantité de ces problèmes mi-sérieux, mi-comiques. Il est capable de me taquiner indéfiniment avec leurs solutions. Dans les premiers temps, j'avais raconté au commis l'intrigue de quelques ouvrages que j'avais lus. On s'en servait maintenant contre moi. Le commis en parlait à Piotr Vassilitch, mais en dénaturant le sens, à dessein, en y ajoutant des malpropretés. Le vieillard l'y aidait en posant adroitement des questions obscènes. Leur langue malicieuse couvrait d'immondices Eugénie Grandet, Lyudmila, Henri IV. Je comprenais qu'il le faisait par désœuvrement plutôt que par méchanceté. Mais je n'en souffrais pas moins. Après avoir pétri de la boue, ils y fouillaient comme des porcs. Ils grognaient de plaisir en salissant, en ridiculisant des sentiments qui les dépassaient, parce qu'ils étaient nobles et purs. Tous les habitants du quartier du commerce, marchands et commis, vivaient d'une vie inférieure, pleine d'amusements stupides et enfantins, mais toujours malveillants. Quand un paysan étranger à la ville demandait le plus court chemin pour tel ou tel faubourg, on lui indiquait invariablement une fausse direction. Ce procédé était une habitude tellement invétérée qu'elle ne divertissait même plus les plaisantins. On attrapait deux souris, on les attachait ensemble par la queue, on les posait à terre, et l'on s'amusait à leurs efforts désespérés pour fuir de côtés différents ou se mordre l'une l'autre. Parfois, on les enduisait de pétrole et on les faisait griller. On attachait un seau de fer blanc à la queue d'un chien. L'animal, en proie à une terreur folle, s'enfuyait avec fracas et les spectateurs riaient aux éclats. Il y avait une foule de divertissements du même genre. Il semblait que les gens, surtout les campagnards, n'existaient que pour servir de jouets au quartier du commerce. On y sentait constamment le désir de se moquer d'autrui, de placer son prochain dans une situation ridicule ou pénible. Chose étrange, les livres que j'avais lus semblaient ignorer cette tendance abominable et pourtant si générale.